Après avoir grandi dans le sein maternel de Marie, où personne d'autre n'avait été déposé et où personne d'autre ne sera plus déposé, Jésus est donc mis dans un tombeau où personne n'avait été déposé et où plus personne ne sera déposé. Et cet abaissement du Seigneur par plusieurs marches successives qui le fait prendre chair du sein de la Vierge Marie et qui lui fait prendre chair jusque dans la mort, cet abaissement l'amène à visiter notre humanité dans tous ses paliers, dans toute son épaisseur, dans tous ses étagements, jusque dans ce lieu sinistre de ténèbres de la mort, ce lieu qui amène l'auteur du livre des Lamentations, comme vous l'avez entendu, à dire que le bonheur a déserté mon âme. Et là, dans ce lieu-là, le Seigneur amène une consolation. Les consolations du Seigneur ne sont pas épuisées, poursuit l'auteur du livre des Lamentations, comme nous l'avons entendu. Ainsi, il faut que Jésus descende jusque dans la mort pour que cette expérience universelle de la mort, que cette expérience ne soit plus seulement le lieu du désert, le lieu de l'aridité, mais puisse être encore un lieu à l'intérieur duquel la consolation vient se loger. Et c'est cette certitude que le Seigneur est le consolateur qui a toujours habité les chrétiens et qui les a même démarqués par rapport à un monde païen qui soit fuyait l'épreuve et le besoin de consolation en inventant une sorte de nouvelle vie de réincarnation, ou l'autre option qui était celle de dire qu'il n'y a rien, le néant. La ligne de crête sur laquelle la révélation nous invite à suivre le Seigneur Jésus consiste à ne pas refuser nos larmes. Le bonheur a déserté mon âme, et à ne pas oublier que la tendresse de Dieu n'est pas épuisée. Et dans cette frêle espérance, les chrétiens, suivant Jésus, rejoints au séjour des morts par Jésus, peuvent ensuite le suivre jusque dans la résurrection et se laisser entraîner comme aimanté par une forme d'attraction céleste, une forme d'attraction paternelle du Père qui attire à lui, qui nous ressuscite et nous appelle à reconstituer toute cette famille des enfants de Dieu dans sa gloire. Nous sommes invités ainsi à marcher sur cette voie dans laquelle nous ne noyons pas notre tristesse dans les ivresses du monde, dans laquelle nous écoutons notre tristesse, notre chagrin face à la mort, dans laquelle nous nous laissons visiter par les consolations de Dieu, et cette voie sur laquelle ensuite notre regard tourné vers le ciel nous amène à ce que notre espérance ne soit pas simplement un vain espoir, une sorte de pari hypothétique, mais quelque chose d'ancré, une certitude fondée sur la résurrection même de Jésus lui-même. Et c'est tout cela qu'il faut tenir, le chagrin que nous pouvons éprouver et qui nous éprouve, qui nous laboure, qui nous remue jusqu'aux entrailles, jusque à la joie exultante de la résurrection, car là où le mal abonde, la grâce surabonde. Et c'est en empruntant ce chemin étroit que les chrétiens, depuis les origines, se sont démarqués du monde païen. Ils l'ont fait de deux manières, et pour l'année jubilaire, notre paroisse se rendra à Rome et nous pourrons aller le constater. Ils l'ont fait de deux manières, d'abord en ensevelissant les morts, d'où les catacombes chrétiennes qui ont pris la suite des catacombes juives. Les juifs à Rome étaient les seuls, et ensuite les chrétiens, les seuls avec les juifs à enterrer leurs morts. Tous les autres construisaient des nécropoles, des cités des morts, dans lesquelles ils déposaient les cendres des morts qu'ils avaient brûlés, car pour eux, brûler les morts, c'était permettre à leur âme d'aller retrouver une autre vie en se réincarnant. Et donc, en enterrant les morts, on signifiait par là que nous n'avons qu'un seul corps, qu'une seule vie, et que ce corps et cette vie nous seront rendus dans la résurrection. Nos corps ne sont pas interchangeables. Je suis mon corps. Mon corps, c'est moi. C'est l'histoire de ma vie. Et je ne vis pas à côté de mon corps. Et dans la mort, nous attendons que notre corps et notre vie nous soient pleinement restitués au jour de la résurrection. Et après avoir pu enterrer leurs morts, quand ils l'ont pu, les chrétiens ont installé les cimetières non pas en dehors des villes, mais autour de leur église, au centre même du village, de leur ville, de leur cité, ne voulant pas repousser les morts au loin, mais faisant société avec eux, les intégrant dans leur vie, car nous le croyons, la communion des saints fait que nous pouvons faire du bien au ciel en priant pour les âmes du purgatoire, comme les saints du ciel peuvent faire du bien sur la terre, en exerçant cette attraction, en fortifiant cette attraction céleste. Car nous sommes tous membres d'un même corps, le corps du Christ. Et la communion des saints, c'est comme ce réseau sanguin invisible qui fait circuler la vie, si bien que parfois par cette vie qui nous relie les uns aux autres, nous pouvons nous faire du mal, mais nous pouvons aussi nous faire beaucoup de bien. Et nous pouvons nous faire tout le bien que Dieu veut nous faire en faisant circuler la charité de Dieu entre nous tous, vivants, mais aussi avec les défunts. Ainsi, les chrétiens, non contents d'enterrer leurs morts, les ont invités à prendre leur place autour de l'édifice même de l'Église où est célébrée la victoire de la résurrection. Il y a là deux signes qui ont profondément démarqué les chrétiens, la foi biblique du monde païen. Et ces deux signes, peut-être nous faut-il nous les réapproprier pour fortifier notre espérance. Nous n'avons qu'une seule vie qui a du prix aux yeux de Dieu, qui est le lieu dans lequel le Seigneur est venu s'enfouir comme dans ce tombeau où nul mort n'avait été déposé. Le Seigneur fait de ce tombeau un tabernacle et il fait de nos vies, de nos corps même, un tabernacle lorsque nous le recevons eucharistiquement. Et il nous faut nous souvenir que la mort n'est pas à repousser au loin, si bien que nous voulons tellement la repousser que nous voulons même la provoquer et que nous voulons l'accélérer, car nous la redoutons, nous la rejetons, nous nous révoltons contre elle. Il nous faut finalement non pas nous euthanasier, mais il nous faut accueillir notre mort comme nous accueillons notre vie, comme nous ne l'avons pas choisie, mais pour qu'elle soit le lieu encore d'une charité, d'un amour, de la charité et de l'amour du mourant qui se tourne vers son Seigneur en disant, comme Jésus sur la croix, « En tes mains je remets mon esprit ». Et la charité est l'amour de ceux qui tiennent la main du mourant et qui exercent très vigoureusement la communion des saints dans ce dernier combat pour que la charité fortifie, consolide et embellisse le corps immense du Christ. Que le Seigneur vivant, qui se tient au milieu de nous dans son Eucharistie très sainte, que le ressuscité qui nous visite eucharistiquement, soit celui à qui nous confions tous les défunts de nos familles, nos aïeux, de notre paroisse, du clergé de cette église qui a édifié ce lieu et du foyer sacerdotal qui est un lieu de miséricorde pour des prêtres qui viennent pour certains mourir, préparer leur mort ici, comme récemment encore nous l'avons expérimenté, que ce lieu, cette paroisse soit un lieu de miséricorde pour les vivants comme pour les défunts. Ainsi est l'Église. Ainsi Jésus nous invite à porter la miséricorde du Père pour les vivants comme pour les défunts. Amen.